Chapitre 4. Pendant que Mariette écoutait à la porte de la chambre où sa marraine s'entretenait avec un étranger, voici ce qui se disait et ce qui se passait dans cette chambre. L'étranger, homme de 45 ans environ, d'une figure assez régulière mais flétrie, creusée par les excès, portait de longues moustaches qu'un cosmétique quelconque rendait d'un noir aussi luisant et aussi cru que celui de sa chevelure artistement frisée, qui, évidemment, devait aussi à l'art son ébène menteur. La physionomie de cet homme offrait un mélange de fausseté, de ruse et d'impertinence. Il avait de gros pieds, de grosses mains, et malgré ses visibles prétentions, on voyait qu'il était de ces gens vulgaires, destinés, non pas à imiter, mais à parodier la véritable élégance. Vêtu avec une recherche de mauvais goût, ayant un large ruban rouge noué au revers de sa redingote, il affectait aussi de se donner une tournure militaire. Il conservait son chapeau sur la tête. Il s'était assis à quelque distance du lit de la malade, et tout en causant avec elle, il mordillait la pomme d'une petite canne enrichie de pierres fines. Madame Lacombe, déjà revenue à ses habitudes atrabilaires et sardoniques, regardait l'étranger avec autant de surprise que de méfiance, et en attendant qu'il s'expliquât, elle commença à ressentir à son égard une certaine aversion, causé par l'air insolent et protecteur de ce personnage. « Puisque votre fille est sortie, ma brave femme, avait dit l'étranger à la malade, cela se trouve à merveille, et je vais m'expliquer clairement. » C'est à ce moment que Mariette, arrivant sur le palier et trouvant la porte entrebâillée, s'était arrêtée pour écouter. La jeune fille entendit donc l'entretien suivant. « Monsieur, reprit la malade d'un ton rebêche, vous m'avez demandé si j'étais la femme Lacombe, marraine de Mariette Moreau. Je vous ai répondu que oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-vous.
D'abord, ma brave femme, je m'appelle Madame Lacombe.
Diable!
Eh bien donc, Madame Lacombe,
reprit l'étranger avec un accent de déférence moqueuse,
je dois vous dire d'abord qui je suis. Je vous dirai ensuite ce que je veux.
Voyons.
Je me nomme le commandant de la Mirandière.
Puis effleurant du doigt son ruban rouge, il ajouta « Ancien militaire, comme vous voyez, 10 campagnes, 5 blessures.
Ça m'est égal. Après, j'ai les plus belles connaissances de Paris, des ducs, des comtes, des marquis. Qu'est-ce que ça me fait à moi? J'ai cabriolet et je dépense au moins 20 000 francs par an. Pendant que moi et ma filleule, nous crevons à moitié de faim avec nos 20 sous par jour, quand elle peut les gagner encore, » dit amèrement la malade. Voilà la justice du monde, pourtant.
Non, ce n'est pas juste, ma brave maman Lacombe, s'écria le commandant de la Mirandière.
Non, cela n'est pas juste, et je viens ici pour faire cesser cette injustice.
Si c'est pour vous moquer de moi que vous êtes monté, reprit la malade, d'un air sombre et courroucé, laissez-moi tranquille.
Me moquer de vous, maman Lacombe, moi?
Tenez, jugez-en d'après ce que je viens vous offrir. Voulez-vous une belle chambre dans un joli appartement? Une bonne pour vous servir, 2 fins repas par jour, le café le matin et 50 francs par mois pour votre tabac, si vous prisez, ou pour vos petites fantaisies, si vous ne prisez pas, maman Lacombe. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça?
Je dis que c'est des menteries, ou bien qu'il y a quelque chose là-dessous, quand on offre tant de choses à une pauvre vieille dame estropiée. Ce n'est pas pour l'amour de Dieu, bien sûr.
Non, maman Lacombe, mais pour l'amour de 2 beaux yeux.
« Quels beaux yeux!
Ceux de votre filleule, maman Lacombe, répondit cyniquement le commandant de la Mirandière. Il n'y a pas besoin d'aller par 4 chemins. » La malade fit un mouvement de surprise, ne répondit rien d'abord, jeta un regard pénétrant sur l'étranger et reprit. « Vous connaissez donc Mariette?
J'étais plusieurs fois faire des commandes de linge chez Madame Jourdan, car j'aime fort le beau linge, moi, » ajouta cet homme en jetant un regard complaisant sur les plis brodés de sa chemise. « J'ai donc vu souvent votre fille le magasin. Je l'ai trouvée charmante, adorable et... »«
Vous venez l'acheter ?»«
Bravo, maman Lacombe. Vous êtes, je le vois, femme d'esprit et de bon sens. Vous comprenez par Dieu les choses à demi-mot. Voici donc mes propositions. Un joli appartement fraîchement meublé pour Mariette, avec qui vous logerez, 500 francs par mois pour sa dépense, une femme de chambre et une cuisinière, qui vous servira de bonne. » Un trousseau convenable pour la petite et une bourse de 50 louis pour son entrée en ménage, sans compter les cadeaux si elle se conduit honnêtement. Voilà pour le solide. Quant à l'agrément, promenade en cabriolet, loge au spectacle, je connais beaucoup d'auteurs.
et de superbes relations avec des dames très comme il faut, qui tiennent des tables d'hôtes, donnent des bals et font jouer à la bouillotte. En un mot, une vie enchantée, maman Lacombe, une vie de duchesse. Voyons, ça vous va-t-il ?
Pourquoi donc pas ? Dit la malade avec un sourire sardonique. Des canailles de pauvresse comme nous. Ça n'est bon qu'à se vendre quand elles sont jeunes, ou qu'à vendre les autres quand elles sont vieilles.
Allons, maman Lacombe. Pour calmer vos honnêtes scrupules, nous mettrons 60 francs par mois pour votre tabac, et je vous ferai hommage d'un superbe châle boiteux.
Afin que vous représentiez dignement et maternellement auprès de Mariette, que vous ne quitterez pas plus que son ombre, car je suis jaloux comme un tigre et n'aime point à être jobardé.
Ça se trouve bien. Justement, ce matin, je disais à Mariette, « Tu es une honnête fille, et tu gagnes à peine 20 sous par jour à coudre des chemises de 300 francs pièce pour une femme entretenue. »
Des chemises de 300 francs pièce commandées chez Madame Jourdan. Attendez donc.
Maman Lacombe, je connais ça, mais oui, c'est pour Amandine, qui est entretenue par le marquis de Saint-Hérem, mon intime. C'est moi qui ai donné sa pratique à Madame Jourdan. Une vraie fortune pour elle, quoique ce diable de marquis paie rarement. Il aime mieux ça, mais en revanche, il met à la mode tous les fournisseurs qu'il prend et toutes les femmes qu'il a.
Cette petite Amandine était la plus obscure des parfumeuses du passage Colbert, et en 6 mois, Saint-Hérem en a fait la femme la plus à la mode de Paris.
Voilà pourtant où peut un jour arriver Mariette, maman Lacombe,
porter des chemises de 300 francs pièce au lieu de les coudre.
Ça ne vous fait pas suer d'orgueil?
À moins qu'il n'arrive à Mariette ce qui est arrivé à une pauvre fille que j'ai connue, et qui s'était aussi perdue par misère.
Et que lui est-il arrivé à cette fille, maman Lacombe?
Elle a été volée.
Volée?
On lui avait aussi promis des monts d'or. Son monsieur l'a logée en garni, et au bout de 3 mois, il l'a laissée sans le sou. Alors, de désespoir, elle s'est tuée.
Ah ça, maman Lacombe, dit l'étranger avec hauteur, pour qui me prenez-vous? Est-ce que j'ai l'air d'un escroc, d'un Robert Macaire?
Je n'en sais rien, je ne m'y connais pas.
Moi, ancien militaire, 20 campagnes, 10 blessures, moi qui suis à tu et à toi avec tous les lions de Paris, moi qui ai cabriolet et qui dépense au moins 20 000 francs par an.
Voyons, parlez franchement, que diable!
Sens des sûretés, des avances que vous voulez.
Soit, l'appartement sera meublé dans 8 jours, le bail signé demain en votre nom avec paiement par mois d'une année d'avance. Et de plus, si nous nous arrangeons, voilà pour rare 25 ou 30 louis que j'ai sur moi, dit l'étranger.
En effet, il tira de la poche de son gilet 28 pièces d'or qu'il jeta sur la table à ouvrage placée tout auprès du lit de la malade. Puis il ajouta,
je ne suis pas comme vous, moi, maman Lacombe. Je n'ai pas peur d'être volée.
Au tintement de l'or, la malade se pencha vivement hors de son grabat et jeta un regard d'âpre convoitise sur ses pièces étincelantes. De sa vie, cette femme n'avait eu en sa possession une pièce d'or. Ses louis étalés devant elle lui causaient une sorte d'éblouissement. Elle ne put même s'empêcher de faire jouer et miroiter entre ses doigts le brillant métal.
Allons donc, se dit le tentateur avec un sourire de dédain. Il a fallu te montrer l'hameçon pour t'y faire mordre, vieille mégère.
Enfin, dit la malade d'une voix vide et oppressée, enfin j'en aurai au moins touché de cet or.
Ce n'est rien que de le toucher, maman Lacombe, le joli c'est de le dépenser.
Voilà pourtant, reprit-elle en empilant les louis avec une attention puérile, voilà pourtant de quoi vivre bien à son aise pendant 5 ou 6 mois.
Allons donc, maman Lacombe, c'est chaque mois que vous et Mariette vous auriez cette somme si vous le vouliez.
Oui, cette somme en or, entendez-vous? En bel et bon or, comme celui-là.
Après un long silence, la malade leva ses yeux caves sur l'étranger et lui dit d'une voix émue, pénétrée.
Monsieur, vous trouvez Mariette gentille? Vous avez raison, il n'y a pas de meilleure créature au monde.
Eh bien, soyez généreux envers elle. Cette somme que voilà, ce n'est pas grand-chose pour un homme riche comme vous. Faites-nous en cadeau.
Hein ? S'écria l'étranger.
Monsieur, reprit la malade, en joignant les mains et avec un accent véritablement touchant, mon bon monsieur, soyez charitable. Cette somme n'est rien pour vous, et elle nous remettrait à flot pour longtemps. Nous payerions ce que nous devons. Mariette ne serait plus obligée de se tuer au travail. Elle aurait le temps de chercher un ouvrage mieux payé. Et nous devrions à votre bonté 5 ou 6 mois de tranquillité, de paradis. Nous vivons de si peu.
Voyons, mon digne monsieur, Faites cela, nous vous bénirons, et il sera dit qu'une fois dans ma vie, j'aurai eu du bonheur. » L'accent de la malade était si sincère, sa demande si naïve, que l'étranger fut encore plus blessé que surpris de cette proposition, ne pouvant ni croire ni comprendre qu'une créature humaine fut assez stupide pour faire sérieusement une pareille demande à un homme de sa sorte. Et il se dit « C'est peu flatteur. La vieille rouée me regarde comme un vieux pigeonneau, bon à plumer. » Puis il ajouta, tout en éclatant de rire, « Ah ça, maman Lacombe, vous me prenez donc pour un inspecteur du bureau de bienfaisance, ou pour un élève en Prix-Montillon. Oui, oui, on vous en fera. Des charités de 600 francs, remboursables au porteur en bénédiction ou en reconnaissance à son ordre. Merci, en voilà une banque. » La malade avait cédé à une de ces folles et soudaines espérances qui parfois entraînent malgré eux les êtres les plus défiants, les plus endurcis par le malheur de leur implacable destinée. Mais, confuse et irritée de sa lourde méprise, Madame Lacombe reprit avec un ricanement sardonique « Pardon, excuse, monsieur, de vous avoir insulté. Il n'y a pas de quoi, maman Lacombe. J'ai, vous le voyez, bien pris la chose. Mais finissons-en. Faut-il, oui ou non, que je rempoche ces beaux louis que vous aimez tant à manier ?» Et il avança la main vers les pièces d'or. La malade, par un mouvement presque machinal, repoussa vivement la main de l'étranger. Ses yeux brillèrent de cupidité au fond de leurs profondes orbites, et elle dit d'une voix sourde en couvant les louis du regard « Un moment donc, on ne vous le mangera pas, votre or. Mais ce que je vous demande, au contraire, à cor et à cri, maman Lacombe, c'est que vous le mangiez, cet or, à condition de... « Je connais Mariette, » répondit la malade, le regard toujours ardemment fixé sur les louis. « Elle ne voudra pas. « Bon, je vous dis qu'elle est honnête, moi. Elle pourrait, comme tant d'autres, écouter quelqu'un qui lui plaise, mais vous, jamais. Elle refuserait. Elle a ses idées. Oui, vous avez beau rire. » « D'accord, je crois à la vertu de Mariette, car je sais ce que Madame Jourdan, chez qui il travaille depuis plusieurs années, m'a dit de votre filleule. Eh bien, alors ? Eh bien, je sais aussi, maman Lacombe, que vous, qui avez de l'influence sur elle, que vous, qu'elle craint comme le feu. » Madame Jourdan me l'a dit. Vous pouvez amener et au besoin contraindre Mariette à accepter, quoi, son bonheur ? Car après tout, vous êtes logés comme des mendiantes, vous mourrez de faim. Or, si vous refusez, savez-vous ce qui arrivera ? Cette petite, avec son beau désintéressement, se laissera tôt ou tard engeler par quelque mauvais gamin, ouvrier comme elle. C'est possible, mais elle n'aura pas vendu son âme. Ta ta ta, ce sont des mots que cela. Et un beau jour, son amant la plantera là, peut-être. Et pour ne pas mourir de faim, la petite finira comme tant d'autres, je vous en réponds. Oh, c'est possible, dit la malade, avec un gémissement courroucé. C'est une mauvaise conseillère que la faim, quand on pâtit pour soi et pour son enfant. Et avec cet or que voilà, combien on en sauverait de ces pauvres filles. Et si Mariette devait finir comme elle, ne vaudrait-il pas mieux tout de suite ? Et pendant quelques instants, les émotions les plus diverses se peignirent sur les traits hâves et contractés de la malheureuse femme. Le regard toujours attaché sur les louis, elle parut en proie à une violente lutte intérieure, puis semblant faire un effort désespéré et fermant soudain les yeux comme pour échapper à la fascination de l'or, elle se rejeta sur son grabat en disant à l'étranger « Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. »« Comment, maman Lacombe, vous refusez ?»« Oui. » « Positivement, oui. »« Allons, je reprends cet or, » dit l'étranger, en ramassant lentement les louis et les faisant teinter. « Je les remets dans ma poche, ces brillants jaunets. »« Que l'enfer vous confonde, vous et votre or !» s'écria la malade exaspérée. « Gardez-le, et surtout, allez-vous-en tout de suite. Je n'ai pas recueilli Mariette pour la perdre ou pour lui conseiller de se perdre. Plutôt que de manger de ce pain-là, j'aimerais mieux allumer un réchaud de charbon et en finir tout de suite, nous deux, la petite et moi. » À peine Madame Lacombe prononçait-elle ces derniers mots que Mariette, indignée, les joues baignées de larmes, s'élança dans la chambre et se jeta au cou de la malade en s'écriant « Oh, ma reine, je savais bien que vous m'aimiez comme votre fille !» Et se retournant vers le commandant de la Mirandière, qu'elle reconnut, car souvent il l'avait obsédée de ses regards chez Madame Jourdan, elle lui dit avec un profond dédain « Je vous prie de sortir d'ici, monsieur. » « Mais, chère petite colombe, j'étais là, monsieur, à cette porte, j'ai tout entendu. » « Tant mieux, vous savez mes offres, et je ne me dédie pas, ma belle. Encore une fois, je vous prie de sortir d'ici, monsieur. »« Bon, bon, l'on s'en va.
petite Lucrèce, on s'en va, mais je vous donne 8 jours pour réfléchir, » dit l'étranger en quittant la chambre. Cependant, il s'arrêta au seuil de la porte et ajouta, « Vous n'oublierez pas mon nom, chère petite, le commandant de la Mirandière. Madame Jourdan sait mon adresse. » Et il disparut. « Ah, ma reine !» reprit la jeune fille en revenant auprès de la malade et l'embrassant avec une nouvelle effusion. « Comme vous m'avez défendu, comme votre cœur a parlé pour moi ?»«
Oui !»
reprit aigrement la malade en se dégageant brusquement de l'étreinte de sa filleule.
« Oui, et avec ces belles vertus-là, au lieu d'avoir tout à gogo, on crève de faim.
Mais, ma marraine !»«
Allons, c'est bon, c'est dit !» s'écria la malade d'une voix acerbe et impatiente. « C'est convenu, j'ai fait mon devoir, tu as fait le tien, je suis honnête femme, tu es honnête fille. Grand bien t'en arrivera, et à moi aussi, compte là-dessus. »«
Mon Dieu, ma marraine, écoutez-moi. Je te dis, vois-tu, que si un beau matin on nous trouve ici, morte avec un réchaud de charbon entre nous deux, ça sera bien fait. Ha 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 !»
Et en riant ainsi d'un rire sardonique, cette malheureuse créature, tellement ulcérée par le malheur que tout s'aigrissait en elle, tout jusqu'à la conscience de son honnêteté, rompit l'entretien avec sa filleule et se retourna brusquement dans la ruelle de son grabat. La nuit était à peu près venue. Mariette alla prendre sur le carré où elle l'avait laissé son cabas, qui renfermait le souper de sa marraine. Elle plaça ses aliments sur la table, près du lit, et alla ensuite silencieusement s'asseoir auprès de l'étroite fenêtre, à travers laquelle n'arrivait qu'un jour crépusculaire. Tirant alors de son sein les morceaux de la lettre de Louis, la jeune ouvrière se mit à les contempler et tomba dans un abîme de désespoir. Le commandant de la Mirandière, en quittant la chambre de Mariette, s'était dit « Bon, c'est un premier coup de feu. La petite réfléchira et la vieille rouée se ravisera. Ses yeux de chouette papillotaient à l'aspect de mon or, comme si elle eût regardé le soleil en plein midi. Et puis leur ignoble misère parlera pour moi. Je ne désespère de rien. 2 mois d'une bonne vie pour la remplumer, et cette petite sera une des plus jolies filles de Paris. Cela me fera beaucoup d'honneur à peu de frais. Mais après les plaisirs, songeons aux affaires. Il s'agit d'en faire une excellente, une vraie trouvaille, » ajouta-t-il en montant dans son cabriolet qu'il dirigea vers la rue Grenelle-Saint-Honoré. Devant le numéro 17, maison de modeste apparence, il descendit et s'adressant au portier. « C'est ici que demeure M. Richard ? Le fils et le père logent ici, monsieur. Je voudrais parler au fils. M. Louis Richard est-il chez lui ?
Oui, monsieur, il vient à l'instant d'arriver de voyage. Il est avec son père.
Ah, il est avec son père. Je ne pourrais donc pas lui parler à lui seul ?
Ils n'ont qu'une chambre pour eux deux. C'est difficile, monsieur. »
Le commandant de la Mirandière tira de son carnet une carte de visite où était son adresse, et il ajouta au crayon, au-dessous de son nom, « Attendra demain chez lui, de 9 à 10 heures du matin, M. Louis Richard, pour une communication très intéressante et qui ne souffre pas de retard. »
« Mon cher, » dit alors M. de la Mirandière au portier, « voici 40 sous pour boire. »
« Merci, monsieur, mais à propos de quoi ?»«
À propos de cette carte qu'il faudra remettre à M. Louis Richard. »«
C'est bien facile, monsieur. »«
Mais il faut seulement la lui remettre demain matin quand il sortira, et surtout sans que son père en ait connaissance, vous comprenez ?»«
Parfaitement, monsieur. »« Ça sera d'autant plus facile que M. Louis sort tous les matins à 7 heures pour se rendre à son étude, et que le père Richard ne va, lui, à son bureau d'écrivain public à 9 heures. »«
À merveille. Ainsi je peux compter sur votre promesse. »
« Oui, monsieur, vous pouvez regarder la commission comme si elle était faite. »
Le commandant de la Mirandière remonta en cabriolet et s'éloigna. Peu de temps après son départ, un facteur apporta une lettre pour Louis Richard, lettre écrite le matin même en présence de Mariette par l'écrivain public, qui, on le voit, avait adressé la lettre à Paris, rue de Grenelle, au lieu de l'adresser à Dreux, poste restante, ainsi que le lui avait demandé la jeune fille. Nous introduirons maintenant le lecteur dans la chambre occupée par le père Richard et par son fils, qui venait d'arriver à l'instant de Dreux.